Chapitre 23. Comme vous voilà raisonnable, petite Nora. Elle serrait les lèvres et ses yeux sombres restaient dirigés vers le visage de la jeune fille. Elle répétait, étrangement raisonnable. Mais je suis sûr que votre idée ne saurait déplaire à Henri. Malheureusement, je lui ai déjà dit de commencer les démarches. Voilà qui est ennuyeux. Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux revenir sur votre décision? Cela me met dans une situation un peu délicate. Nora sentit avec angoisse la nécessité de lutter. Je suis désolé, mais j'ai déjà écrit à mes avoués. Vraiment? Dit Mademoiselle Revelstock. Mais tant pis. Je croyais que vous m'auriez permis de vous guider dans cette aventure mirobolante. Enfin, puisqu'il est trop tard, n'en parlons plus. Au fait, voulez-vous dire que j'aurai besoin de la voiture dans une demi-heure? Elle reprit son travail, calme en apparence. Sa main ne tremblait pas en cousant, mais deux taches rouges sur ses joues trahissaient une rage concentrée. Nora remonta chez elle. Elle entendit s'éloigner la voiture emportant Mademoiselle Revelstock. Que faire? Elle ne pouvait trouver de prétexte pour sortir. Jusqu'ici, la vieille dame l'avait toujours traitée correctement, et même parfois avec amabilité, sans jamais lui faire sentir sa situation dépendante. D'ailleurs, quand elle revint, Mademoiselle Revelstock était d'une humeur charmante. Elle appela Nora, lui dit qu'elle avait vu Henri, qui naturellement n'avait pas pris de nouvelles avec le sourire, mais avait fini par l'accepter sans trop rechigner. Mais elle conclut en riant. La situation entre vous et moi devient assez curieuse. Hier, vous étiez ma secrétaire, charmante d'ailleurs, mais pardonnez-le-moi de fort peu d'importance, et aujourd'hui j'ose presque plus vous donner un ordre. La jeune fille répondit sur le même ton empreint de gaieté. Des ordres, mais cela ne vous a pas empêché de m'en donner beaucoup aujourd'hui. Eh bien, en voici encore un. Téléphonez donc à Henri que j'ai changé d'idée et que je dînerai avec lui. Je viens de rencontrer Jackson Crayley, qui m'a demandé de recevoir après le dîner. Il a, paraît-il, quelque chose de fort intéressant à me raconter. Oh, j'ai eu tort d'accepter, il m'ennuie, et je préfère n'être pas là, mais vous le recevrez, et vous tâcherez de vous en débarrasser le plus vite possible. La secrétaire, désormais millionnaire, dîna donc seule, ce qui lui permit de réfléchir à loisir sur les événements de la journée. La femme de chambre l'attira de son rêve en lui annonçant que quelqu'un l'attendait au salon. « Ah, monsieur Crayley, sans doute. Non, mademoiselle, non, c'est une personne que je ne connais pas. » En effet, Nora se trouva en présence d'un inconnu qui se présenta lui-même avec une certaine autorité. « Miss Sanders, n'est-ce pas? Je viens de la part de l'inspecteur Long. » « Je suis le sergent Smith de la préfecture. »«
Ah, vous êtes policier ?»«
Oui, mademoiselle. Monsieur Long voudrait vous voir immédiatement. » Il savait que Miss Revelstock dînait dehors et que vous attendiez Monsieur Crayley, mais ce dernier est justement avec lui en ce moment. C'est d'ailleurs pourquoi on a besoin de vous. » Voyant que le café était servi, il ajouta « Mais prenez le temps de boire votre tasse. Cela ne retardera pas beaucoup. »
« Mais n'en prendrez-vous pas une avec moi, sergent ?»
Il refusa. Elle but machinalement. Elle était fort hésitante.
« C'est, dit-elle, qu'il m'est difficile de sortir. Ne pourrais-je téléphoner ?»«
Oh, l'inspecteur désire vous voir en personne. Ah, j'oubliais, il vous prie d'apporter les documents que vous deviez signer pour Maître Henri, si vous les avez. »
« Oh, je crois qu'ils sont dans le bureau de mademoiselle. Enfin, je vais les chercher. »
Au moment où elle se dirigeait vers la porte,
Elle se sentit envahir par un brusque engourdissement. Puis tout devint sombre et indistinct autour d'elle, et elle tomba dans les bras du sergent, qui s'était avancé très opportunément pour la recevoir. Chapitre 24. 5 minutes après, Nora, toujours inconsciente, roulait vers l'ouest en compagnie d'un chauffeur et du soi-disant Smith. La voiture traversa la ville, la banlieue, et parvint à un endroit où les maisons étaient fort espacées. Elle s'arrêta près de l'une d'elles, et la jeune fille fut bientôt déposée dans une cuisine sur un carrelage poussiéreux. Peu à peu, elle revenait à elle. Elle éprouvait un violent mal de tête et d'affreuses nausées. Elle retrouvait cependant la mémoire des derniers événements. « Mais où suis-je ? » murmura-t-elle en reconnaissant auprès d'elle le sergent Smith. Cet homme s'approchait en tendant un gobelet d'aluminium. « Buvez, c'est du cognac, cela vous fera du bien. » Elle voulait refuser, mais il l'obligea à absorber quelques gouttes qui lui rendirent en effet un peu de force. « Où est Monsieur Long ?»« Oh diable, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. »« Mais enfin, pourquoi suis-je ici ?»« Eh, ma belle, parce que je vous y ai mené. J'ajoute que vous êtes loin de tout secours et qu'il est inutile d'appeler. » Cependant, elle entendait le bruit lointain de voitures qui roulaient sans doute sur une grande voie de communication. Elle essaya d'aller jusqu'à la fenêtre pour s'en assurer. Restez donc tranquille, commanda l'homme, si vous voulez qu'il ne vous arrive rien. Elle s'assit, tremblante et sans mot dire. L'homme ne parlait plus, mais ne la quittait pas des yeux. Lentement, la nuit tombait. L'obscurité gagnait la pièce sordide, enveloppant la prisonnière d'incertitude et de terreur. Arnold Long était un garçon pour lequel les femmes n'avaient guère compté jusqu'à présent. Cependant, à peine avait-il quitté Nora Sanders qu'il cherchait un moyen de la revoir. « Intérêt purement professionnel, se disait-il à lui-même, encore que sa loyauté foncière se révolta contre une telle explication. Il avait beaucoup à faire à la préfecture. À chaque instant, un rapport lui parvenait d'un côté ou d'un autre. Un des policiers préposés à la surveillance de la demeure de Mademoiselle Rivelstock vint annoncer vers 10 heures que Mademoiselle Sanders avait reçu une visite. « Oh, il faut s'informer du nom de ce visiteur !» songea Long en faisant appeler Rouche. Ils descendirent ensemble les larges escaliers qui vont de Scotland Yard au quai. Il faisait déjà sombre. Une voiture, 3 phares allumés, rasait le trottoir à vive allure venant vers eux. « Mais il va beaucoup trop vite !» remarqua Rouche. La limousine arrivait à leur hauteur, les aveuglant de ses phares, quand soudain, Long saisit son subordonné et le projeta de côté. L'auto faisait une embardée sur le trottoir, rasant les 2 hommes. Le radiateur s'écrasa contre le mur. L'accident s'était produit de telle sorte que Long avait eu sa veste happée par le garde-boue. C'est par miracle qu'il était indemne. Un policeman s'empressait. « Arrêtez le chauffeur !» cria Long. « Et qu'on le garde au secret jusqu'à ce que je l'interroge !» Puis, en traînant Rouche, qui n'y comprenait goutte, il retourna en courant à la préfecture. Scotland Yard a 2 entrées. Rouche fut extrêmement surpris de voir Long pénétrer dans le bâtiment par les quais et ressortir par l'autre porte. Une fois dans la rue, Arnold murmura entre ses dents serrées. « Marchons plus lentement maintenant et attention !»« Mais pourquoi ?»« Chut ! Faites ce que je vous dis et surtout, soyez prêts à bondir !» Il semblait 2 noctambules à la recherche d'un taxi. Cette fois encore, ils virent une voiture avancer dans leur direction en augmentant progressivement de vitesse. Un brusque coup de volant et déjà le capot brutal était sur eux. Au large, avait crié Long. Chacun des deux policiers avait fait un saut, l'un à droite, l'autre à gauche. L'auto s'arrêtait, bloquée par un réverbère. Long se dressait sur le marchepied et saisissait au collet le mécanicien qui tentait de s'enfuir. Il ne connaissait pas le visage de cet homme. Vous voyez comme nous étions attendus de chaque côté. Les terribles ont imaginé cet aimable sport. Sachant fort bien que je n'ai jamais ma voiture et que j'ai l'habitude de marcher un peu avant de prendre un taxi. Oh, décidément, ils tiennent à me mettre hors de combat. Enfin, je crois que nous pouvons être rassurés pour ce soir. Et tranquillement, il héla un chauffeur. 10 minutes après, il sonnait à la porte de Miss Revelstock. Chapitre 25. Mademoiselle Sanders est sortie. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit partie sans prévenir personne. Toujours suivi de Rouche, Long entra dans le salon. Le plateau était toujours là, avec les tasses vides. L'inspecteur prit la cafetière à demi pleine, la sentit et la tendit à Rouche. Oh, un stupéfiant, sans aucun doute. La femme de chambre les regardait faire en ouvrant de grands yeux. Arnold demanda : La maison a-t-elle une autre sortie ? Oui, il y a dans le bureau de Miss Revelstock un escalier qui conduit directement au garage. Ils se dirigèrent de ce côté. Toutes les portes étaient ouvertes, même celle de la remise. Long examina avec soin la petite construction. Peine perdue, aucun indice. Mais plus loin, les policiers eurent la chance de trouver sur son seuil une femme qui avait veillé là pendant toute la soirée avec son mari. Elle avait parfaitement remarqué une vieille Daimler qui était entrée dans la remise 2 heures auparavant et qui en était ressortie 1 quart d'heure après. « Store baissé !» ajouta cette femme, qui avait un don d'observation renforcé par une excellente mémoire. Cela m'avait tout l'air d'une de ces vieilles limousines employées par des voyageurs de commerce. Arnold et Rouche remontèrent dans leur taxi et suivirent la direction indiquée. Ils purent regarder assez longtemps la trace. La Daimler avait en effet attiré l'attention des policemen parce que ses numéros d'ordre étaient complètement illisibles. Plusieurs fois, on avait essayé de l'arrêter. De nouveaux renseignements furent obtenus à la barrière ouest, où l'on avait vu passer la Daimler avec ses stores baissés. Maintenant, les poursuivants roulaient à travers la banlieue. Ils réussirent à conserver la piste de poste de police en poste de surveillance jusqu'à la route de Basse. Un carrefour proposait à cet endroit 5 directions différentes. Où aller ? Long mit pied à terre et se mit à observer les environs. Un groupe de maisons surtout attirait son attention. Il y en avait 4 ou 5 et la dernière se trouvait un peu en retrait et particulièrement isolée. Il appela Rouche et tous deux avancèrent prudemment en contournant les bâtisses. Tout à coup, ils remarquèrent les traces de roues qui menaient à une sorte de garage. Ils s'en approchèrent, leur lampe électrique projetant par instants de brèves lueurs. La porte du garage était entr'ouverte. Dans l'intérieur, ils purent apercevoir une vieille voiture. C'était bien une Daimler. Le radiateur était froid. Ils revinrent vers la maison où ne brillait aucune lumière. Les portes en étaient solidement fermées, les fenêtres aussi. Long n'hésita pas. D'un coup de coude, il fit voler en éclats un carreau. Il put alors tourner l'espagnolette et sauter dans la pièce. Rouche l'y suivit. Là, pas plus que dans les autres parties de la maison, rien de particulier n'apparaissait de prime abord. Nulle trace de vie, mais quelqu'un était passé ici récemment. On voyait un papier graisseux sur une table avec un reste de sandwich. Rouge, qui examinait les murs, fit entendre une exclamation. Sous le pinceau lumineux de sa lampe, un mot se détachait nettement sur le plâtre frais. Marlowe. L'homme fit entendre un grognement de satisfaction. De son côté, il avait fait une découverte inattendue en cet endroit désert. Un téléphone avait été récemment installé. Il sonna immédiatement la ville et se fit connaître. Avez-vous eu quelques appels d'ici dans le courant de la soirée? Non, mais le numéro a été demandé deux fois par Londres, une fois à 8h30 et une autre à 10h. Bon, donnez-moi la station de police locale. Il demanda une voiture rapide pour son usage personnel et un homme pour garder la Daimler. Encore, ajoutait-il, il y a peu de chance pour que ces bougres-là viennent la rechercher. Il se mit lui-même au volant. Bien entendu, fit Rouge, nous allons à Marlowe. La voix d'Arnold Long prit une inflexion étrangement grave. À Marlowe, certes. Oh, Jackson Crayley. Dieu vous garde si le moindre mal est arrivé à Nora. Chapitre 26. Nora Sanders souffrait encore beaucoup de la tête lorsque retentit l'appel téléphonique. Son gardien, qui était resté silencieux près d'elle pendant près d'une heure, se leva en menaçant. Allez, n'essayez pas de vous échapper, je vous jure que vous en repentiriez. Il gagna la pièce où se trouvait l'appareil et elle l'entendit parler à voix basse. Il répondait en opposant des observations. Enfin, en bougonnant, il acquiesça. Mais il avait eu un mot imprudent. Oui, Marlowe, compris. De retour dans la cuisine où l'attendait Nora, il prévint celle-ci qu'il allait falloir marcher. Où cela? Oh, qu'est-ce que cela peut vous faire? Au bout de 2 km, on vous prendra sur la route. Votre ami va trop vite pour nous, ma belle enfant. Il paraît qu'il a trouvé notre trace. Décidément, cet homme parlait trop. Le cœur de la jeune fille avait sauté dans sa poitrine. Son ami, mais cela ne pouvait être que Long. Sûrement, puisqu'il était sur sa trace, il arriverait jusqu'ici. Mais comment lui laisser une indication? Elle n'avait ni crayon ni papier. Elle s'approcha du mur et les mains au dos avec son ongle. Elle écrivit tant bien que mal le mot Marlowe. Alors, en route, fit l'homme qui n'avait rien remarqué. Le grand air fit du bien à la jeune fille. Son guide ne paraissait pas très bien connaître les lieux. Il se trompa plusieurs fois le chemin. Enfin, ils arrivèrent à une grande route. Nora commençait à ressentir cruellement la fatigue quand son gardien lui signifia de s'asseoir et d'attendre. Elle se laissa tomber sur le talus. Elle réfléchissait avec horreur à sa situation. Mais pourquoi l'avait-on enlevée? Évidemment, c'était cette affaire d'héritage qui avait déclenché tout cela. Et elle s'étonnait de se sentir tant de calme et de courage. Mais, et cela vouait avec un sentiment de merveilleuse douceur, c'est qu'elle avait une foi absolue en Arnold Long. Levez-vous, fit l'homme qui ne l'avait pas quitté des yeux. Voilà la voiture. Une auto silencieuse, à peine éclairée, s'arrêtait près d'eux. Son gardien la hissa à l'intérieur et monta à côté d'elle. Dans un village qu'elle reconnut pour Slough, à un carrefour, ils furent arrêtés par un policeman pour permettre à un lourd camion de passer. Nora faillit crier au secours. Elle ouvrait déjà la bouche quand elle fut brutalement rejetée en arrière. « Un mot, je vous assomme !» Elle se tut. Ils traversèrent Maidenhead, tournèrent à droite vers Marlow. Mais où l'emmenait-il? Chez Monkford, chez Jackson Crayley? Oh, chez ce dernier, à coup sûr. Malgré la nuit, la jeune fille reconnaissait la Maison Blanche et le jardin qu'elle avait tant admiré. Mais non, la voiture ne s'arrêta pas. Elle continua à rouler jusqu'à une haie bordant une prairie. On fit descendre Nora, qui dut traverser l'herbe jusqu'à la rivière où se réfléchissait le fanal d'un bateau. Près du bord se trouvait amarrée une sorte de vedette. Quand elle fut embarquée, son compagnon détacha l'amarre et mit en marche le moteur. Ils étaient seuls, tous deux, au fil de l'eau. « Écoutez-moi, dit l'homme, nous allons passer l'écluse du temple. Si on m'arrêtait, j'en aurais au bas mot pour 15 ans. Or, il n'y a pas d'existence humaine qui vaille pour moi 15 ans de liberté. Si je vous entends seulement respirer, je vous étrangle et je vous jette à l'eau avant que l'éclusier ait le temps de faire un mouvement. » Sa voix vibrait d'une conviction si atroce que, tassée sur elle-même au fond de la barque, la jeune fille frissonna. Le moteur tournait indifférent, régulier. Elle perçut l'appel de l'éclusier. Le bateau ralentit et se glissa avec précaution entre les vannes. Tandis qu'il s'élevait progressivement jusqu'à la hauteur du quai, le pilote échangea quelques mots avec le fonctionnaire de la marine fluviale. Enfin, le moteur fit entendre à nouveau son ronronnement et la descente reprit au milieu du fleuve. À l'ouest du temple, l'eau fait un coude brusque et les berges sont assombries par de grands arbres aux branches pendantes. Ce fut vers l'une de ces masses noires que se dirigea le bateau, qui accosta devant un bungalow en bois, construit à l'extrême bord et supporté en partie par des pilotis. « Sautez !» ordonna l'homme avec son habituelle brusquerie. Il cherchait une clé dans sa poche. Il ouvrit une porte avec quelques difficultés, poussa Nora devant lui, fit craquer une allumette et alluma une bougie. La jeune fille se trouva alors dans une petite pièce assez bien meublée, où la poussière recouvrait toute chose d'une couche épaisse. Au mur pendaient quelques jolies gravures. Des rideaux de velours masquaient les fenêtres. « Vous ne connaissez pas l'endroit, je suppose. C'est le bungalow de Shelton. » Une peur horrible serra la gorge de Nora. Elle regardait avec effroi l'endroit où Clay Shelton avait vécu et travaillé. L'esprit démoniaque du faussaire assassin hantait encore, sans doute, ce décor familier. Là, sur cette table, sa plume machiavélique avait reproduit les signatures les plus diverses, et de telle sorte que ceux-là même à qui elle appartenait ces signatures n'y pouvaient discerner un défaut. « Restez là, ne bougez pas !» Nora entendit l'homme s'éloigner après avoir fermé la porte à clé. Le bruit du moteur lui indiqua bientôt qu'elle restait seule. La lueur de la bougie promenait dans la chambre des ombres impressionnantes. Il semblait à Nora que des formes imprécises se mouvaient autour d'elle. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit devant elle une porte et une serrure. Ses pupilles se dilatèrent. La poignée commençait à tourner lentement, doucement, et aussi doucement, la porte s'ouvrait davantage, tandis que le long du chambranle apparaissait une longue main jaune. Chapitre 27. Un poignet se montra après la main, puis des boutons, des mailles, et enfin la manche noire d'un veston. « N'ayez pas peur !» C'était Jackson Crayley. Sa longue figure était plus pâle qu'à l'ordinaire. Sa moustache tombait toujours tristement de chaque côté de sa bouche. Il était en smoking et cette tenue inattendue dans une maison ensevelie sous la poussière avait quelque chose d'étrange qui eût pu prêter à rire en toute autre occasion. Il regardait autour de lui avec anxiété. « Où est la personne qui vous a accompagné ?» Nora avait repris un peu de calme. « Parti, » dit-elle tranquillement. « Mais maintenant, me direz-vous pourquoi je suis ici ?» Il se gratta le menton d'un air pensif. Elle remarqua que ses mains tremblaient. « Bon, je ne sais pas moi-même, » dit-il enfin. « Mais soyez sans crainte, il ne vous arrivera rien. » Il eut un silence pendant lequel il examina Nora. Son visage s'assombrissait de plus en plus, et la jeune fille finit par croire qu'il était encore plus effrayé qu'elle-même. De temps en temps, il regardait nerveusement derrière lui, et il avait des frémissements des épaules chaque fois qu'il apercevait sur le mur son ombre que la clarté mouvante de la bougie rendait grotesque. Il dit enfin « Oh, je crois bien que vous soyez dans une situation déplorable. À vrai dire, je ne crois pas que personne ait jamais connu chose semblable. » Nora faisait un courageux effort pour réagir. « Vraiment, monsieur Crowley, il me semble au contraire que votre présence améliore ma situation. Maintenant, au moins, vous êtes là pour me protéger. » Il n'osait plus la regarder. Il tira un mouchoir de soie de sa poche, manche, et épousseta une chaise. « Asseyez-vous, voulez-vous, il faut que je vous parle. Je crains bien que, lorsque j'aurai fini, vous me considériez comme le dernier des mufles. » Elle s'assit, et il commença avec des hésitations qui parfois le faisaient bafouiller. Pour vous, n'est-ce pas, il n'y a pour vous tirer de là qu'une seule chose. Oui, une seule, vous me suivez. C'est, n'est-ce pas, c'est le mariage. Quoi, mais oui. Lorsqu'on y pense, un homme en vaut un autre, enfin. Je veux dire qu'un homme vaut un autre homme. Vous saisissez pour faire un mari. Nora, très calme. « Mais je ne vous comprends pas du tout, au contraire. Je ne pense nullement à me marier. »« Évidemment, bien entendu, mais enfin, si je vous demandais de m'épouser, cela vous ennuierait tant que cela ?»« Vous épouser, mon Dieu ?»« Oui, c'est bien ce que je disais. Vous vous marierez avec moi demain et toutes les difficultés sont aplanies. » Vous aurez quelqu'un qui... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. » Elle secoua la tête. « Il n'y a qu'un malheur, dit-elle, c'est que je ne veux pas vous épouser. » La face de Crowley devint presque comique. « Mais je vous jure que vous avez tort. Vous ne savez pas à quel point vous avez tort. Tenez, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas plus envie de vous épouser que vous n'avez envie de le faire vous-même. Et pourtant, j'éprouverais un immense soulagement si vous y consentiez. Parce que... » Et sa main tremblante se porta à nouveau à ses lèvres. « Ce serait beaucoup mieux pour vous. Allez, donnez-moi votre parole d'honneur que vous m'épouserez demain et je vous protégerai. Je vous jure que je vous protégerai. » « Maintenant, si vous vous obstinez, » la sueur coulait de son front, « mon Dieu, oh, je ne sais pas ce qui peut arriver. » Ses propos étaient incohérents et il se dérobait à toute explication raisonnable. « Ben, je suis rien, moi, moins qu'un enfant, à peine un souffle. Et vous n'imaginez pas combien je hais toutes ces combinaisons. » « Je les hais, grand Dieu, mais oui, je les hais. Oh, si seulement je pouvais filer au loin. Une fois, j'y étais presque arrivé. Oui, je vais gagner l'Italie. J'allais prendre le bateau à Gênes, et puis le courage m'a manqué. Dieu, quel âge je fais! Elle attendait, espérant qu'il parlerait encore. Mais il restait silencieux, écoutant. Tout à coup, il leva la tête et lui fit signe de prendre garde. « Ne bougez pas !» murmura-t-il. Il marcha vers la porte d'entrée qu'il trouva fermée. Alors il retourna vers la pièce d'où il était sorti tout à l'heure. Il disparut et Nora entendit le bruit confus de plusieurs voix dont elle ne pouvait distinguer les paroles. Elle comprit cependant que trois personnes discutaient. Un instant, Crowley parla assez fort, disant « Je ne peux pas, je ne peux pas !» Des éclats plus violents suivirent, puis se turent. Enfin, le bouton de la porte tourna doucement, et Crowley se faufila à nouveau près d'elle. Si, à sa première apparition, il était pâle et fatigué, maintenant, il ressemblait à un fantôme. Sa main tremblante fit signe de garder le silence. Il tendait l'oreille. Ceux qui étaient venus s'en allaient. Alors, sa physionomie marqua un changement. Un pli de résolution, une expression de volonté assez rare chez lui apparaissait. Il dit « Ils vont revenir dans 2 heures. Nous avons donc 2 heures pour nous décider. » Mais qui ils? Les terribles! Vous êtes en leur pouvoir? Il fit signe que oui. En leur pouvoir, hélas, oui, et mieux encore. Il respirait avec difficulté. Mais ne m'épouseriez-vous même pas, même pour sauver votre vie? Elle secoua la tête. « Je ne voudrais pas vous blesser, » commença-t-elle. « Oh, 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 vous ne me blessez pas. Pour l'amour de Dieu, ne vous occupez pas de mes sentiments. Encore une fois, rien ne pourrait vous décider. » « Non, rien, personne, ni aucune circonstance. » Il baissa la voix. « Vous êtes donc amoureuse de quelqu'un ?» Il semblait être extrêmement intéressé tout à coup, comme si sa curiosité eut le pouvoir de le distraire des épouvantables pensées qui l'agitaient. « Non, » dit-elle en hésitant, « mais j'espère bien me marier un jour. » Il eut alors une étrange expression sur le visage de cet homme. Il sortit brusquement dans la pièce à côté et revint, tenant à la main un revolver. « Allons, venez !» Elle le suivit, sans mot dire, à travers une chambre à coucher, puis le long d'un étroit passage qui conduisait à une porte ouverte sur la nuit. La lune se levait. Nora distingua un sentier et plus loin une route étroite, parallèle au bungalow. Il marchait en silence avec 1000 précautions. De temps à autre, il se détachait pour explorer le chemin. Ils parvinrent ainsi au bord de l'eau. Un chant traînait au loin. « Pouvez-vous distinguer le bateau ? » souffla-t-il. « Je n'ose pas allumer. » Des buissons rendaient l'endroit très obscur. Elle se pencha et sentit le bord métallique d'une barque dont elle chercha le fond avec son pied. « Glissez-vous tout à fait au bout !» Le bateau oscilla un instant et commença à se mouvoir. « Essayez de ramer! Vous devez avoir une pagaie près de vous !» Il parlait toujours à voix très basse. Elle découvrit le frêle aviron et commença à s'en servir. « Remontons le courant! Et surtout, pas de bruit !» Ils avancèrent ainsi à la buette pendant quelque temps. Nora ne sortait pas sa pagaie de l'eau afin de ne troubler en rien le silence. Ils se trouvèrent bientôt devant l'écluse. Aucun mot ne fut prononcé pendant le passage. D'autres minutes s'écoulèrent. Marlowe apparaissait à leur droite. « Je ne pense plus qu'il y ait du danger, » murmura Crayley. « Ils ont un canot électrique près de l'écluse du temple. Il aurait été facile de nous rejoindre s'ils étaient aperçus de notre fuite. » À peine achevait-il qu'ils virent quelque chose de blanc, de forme allongée, qui se détachait de la rive et fonçait sur eux. « Pagayez !» dit-il d'une voix hachée comme un sanglot. « Près du bord, nous sauterons et nous tâcherons de courir. » Ils étaient à peine à quelques mètres de la berge quand le canot électrique se rangea à leur côté. Quelqu'un se pencha, saisit la jeune fille par le bras. Elle poussa un grand cri. Maintenant, elle luttait avec une énergie désespérée dans le fond du bateau. Ses forces s'épuisèrent rapidement. Il lui revint soudain en mémoire un certain mouvement de défense qu'on lui avait enseigné autrefois. Elle s'arc-bouta au menton de son assaillant et repoussa violemment sa tête en arrière. Elle se trouva libre l'espace d'une seconde. Cela lui suffit pour bondir par-dessus bord et pour se précipiter à l'eau. D'abord, elle plongea, passa sous le canot et essaya de se diriger vers le milieu du fleuve. Et en revenant à la surface, elle distingua deux lumières, l'une rouge, l'autre verte, qui semblaient venir de Marlowe, une vedette à moteur. Se soulevant, elle hurla un appel désespéré. Mais son cri l'avait décelé. Le canot électrique vira de son côté. Elle plongea à nouveau, toujours poursuivie. Cependant, les feux rouges et verts s'approchaient. Elle entendit la voix d'un homme et vit un faisceau de lumière blanche qui jaillissait de la vedette. Elle entendit aussi un premier coup de feu, puis un second. Une balle siffla près d'elle. Une autre projeta une gerbe dont elle eut le visage éclaboussé. Puis elle fut prise dans un rayon de lumière et elle sentit une main qui la saisissait. En hurlant, elle essaya encore de se dégager. Plutôt la mort au fond de l'eau que de connaître encore de telles horreurs. Elle ouvrit démesurément les yeux. Un visage était contre le sien. C'était celui d'Arnold Long. Chapitre 28. Les deux détectives étaient arrivés à la maison de Jackson Crowley à 10h30. Là, un maître d'hôtel solennel les avait introduits dans le salon. Il y avait sur la table un verre contenant encore quelques gouttes de whisky à côté d'un cigare à demi fumé. « Je vais prévenir M. Crowley !» Mais le domestique revenait bientôt en disant qu'il n'avait pas pu trouver son maître dans la maison. Il semblait très étonné. Il expliqua « Quelquefois, monsieur se promène dans le jardin assez tard et même il descend jusqu'à la rivière. » Et où garde-t-il son bateau? Là, vous le voyez. Il est donc sorti avec sa voiture. Quelqu'un est-il venu ce soir?
Personne, monsieur.
Et pas d'appel au téléphone?
Deux, je crois.
Long se dirigeait vers l'appareil. Depuis longtemps, les communications de Crayley passaient par la table d'écoute de Scotland Yard. Long obtint rapidement l'employé préposé à cette surveillance.
Oh, pour le sieur Crayley, deux appels venant de Londres. Je les ai interceptés, mais comme toujours, la conversation a eu lieu en danois.
Pouvez-vous m'en dire l'heure exacte?
Il y a à peu près une demi-heure et l'autre... Oh, beaucoup plus tôt dans la soirée.
Le policier savait maintenant que c'était le second appel qui avait attiré Jackson Crayley hors de chez lui. Ce n'était donc pas ici que la jeune fille était cachée. Il savait aussi que Shelton avait eu plusieurs refuges au bord du fleuve. Il envoya Rouge fretter une vedette automobile et se promena nerveusement dans le jardin jusqu'au retour de son collègue. 11 heures sonnaient quand ils embarquèrent. Ils se trouvaient à moitié chemin entre Marlow et l'écluse lorsqu'un cri de détresse retentit. Nora était évanouie lorsqu'elle se trouva au fond de la vedette auprès de son sauveur. Celui-ci l'étendit sur des coussins. Le canot électrique avait disparu dans l'ombre. Elle revint à elle lorsque l'embarcation, frétée par les policiers, s'arrêta face à la maison de Crayley. On l'aida à marcher jusqu'au salon, mais il fallut attendre quelque temps avant qu'elle fût en état de compter les détails de son aventure. L'homme restait soucieux. Oh, la bataille n'était pas encore gagnée, loin de là. Il avait demandé de l'aide par téléphone, mais celle-ci tardait à venir. Ce ne fut qu'une heure après qu'on put commencer sérieusement à établir une surveillance le long du fleuve. On trouva le canot électrique abandonné au fil de l'eau. Aucune trace de Crayley. L'éclusier affirma qu'aucun nouveau bateau n'avait passé l'écluse depuis qu'il avait entendu des coups de feu. Le bungalow de Shelton fut soigneusement visité. Arnold, qui avait forcé la porte, trouva sur une table une bougie entièrement consumée, mais rien qui pût constituer un début de piste. Il examina tout et la seule chose qui retint son attention fut un livre poussiéreux, un exemplaire d'un ouvrage intitulé « Faiblesse », dont l'auteur se nommait Gregory Betts. L'on savait très bien que ce nom comptait au nombre des pseudonymes de Clay Shelton. « Quelle étonnante nature !» pensait-il. « Personne ne s'est jamais douté de l'étendue de cette intelligence. » D'ailleurs, maintenant, il serait trop tard. Il savait que le faussaire se targuait de théories à la fois originales et perverses, et qu'il ne manquait pas d'un certain talent d'écrivain. Ce livre était un de ses travaux mineurs. Le policier l'ouvrit, feuilleta quelques pages, et s'arrêta au passage suivant. L'homme dans la société doit ou accepter la place qui lui est faite par ceux qui sont plus fortunés que lui. Cela est très bien résolu à ce qu'ils ne soient pas aussi privilégiés qu'eux-mêmes, ou franchissant toute barrière, par sa volonté et son intelligence, atteindre un sommet où il établira son égoïste domaine. Pour en arriver là, il convient de supprimer tout sentiment, de s'isoler des êtres et des choses, et de faire fi des intérêts communs. Long eut un sourire amer en lisant ces lignes, où se condensait toute la philosophie de Shelton. Voilà donc la loi qui conduisait les terribles. Sa rêverie fut interrompue par l'arrivée d'un brigadier. « Voici bientôt l'aube, monsieur Long. Peut-être vaut-il mieux interrompre momentanément les recherches. Nous avons découvert la petite automobile à deux places qui avait amené Jackson Crayley jusqu'à cette maison. Elle était dissimulée dans un buisson à quelques centaines de mètres. Un manteau était resté sur le siège. Mais où diable est-il passé lui-même ? Je suppose que vous allez demander un mandat d'arrêt contre lui. Certes. » Le ton d'Arnold était soucieux.
Ce mandat, j'aurais déjà pu l'obtenir, mais me suis toujours demandé si son arrestation nous aiderait à grand-chose. Le détective connaissait suffisamment Crowley et ses habitudes pour penser qu'il avait dû effectuer à contre-cœur cette course en voiture dans la nuit. Il était paresseux, assez inintelligent, mais plutôt bon garçon. Malgré lui, Long savait gré à ce faiblard qui avait finalement trouvé le courage de risquer sa vie pour sauver Nora. Mais où pouvait-il être? Pour l'instant, c'était là la clé du mystère, le point faible dans la situation des terribles. En ce moment, Long se tenait debout devant la maison. Il contemplait silencieusement le lever du jour. Les arbres se découpaient en noir sur le ciel pâle. Sous les frondaisons de l'un d'eux, il crut distinguer une branche brisée qui se balançait doucement. Il fit remarquer la chose à l'un de ses hommes. « Ne passez pas sous cet arbre, vous risqueriez d'être blessé. Il faudra couper cette branche. » Ses yeux errèrent ailleurs. Et quand ils revinrent à l'arbre, le jour avait fait assez de progrès pour qu'aucun détail ne pût échapper à leur regard perçant. Long eut un sursaut, courut vers un canot automobile et navigua vers cette forme qui se balançait. C'était le corps d'un homme en smoking. Ses mains étaient attachées derrière son dos et en travers de son plastron blanc, le mot « Surrender » était inscrit en rouge. Pour bornés que fussent les connaissances de langue en danois, ils n'ignoraient pas que « Surrender » signifie « traître ».